Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment ne pas se disputer pendant les fêtes de fin d'année? Ce temps de partage et de concorde familiale idéalisée, vous êtes nombreux à redouter ce moment. Anticipation anxieuse, car les pommes de discorde sont légion autour du chapon et de la bûche glacée. Passe sanitaire, vaccin, pro ou anti-Macron, pro ou anti-Zemmour, sans oublier les querelles intrafamiliales qui remontent à la surface. Rivalité entre frères et sœurs, haine recuite entre beaux-frères et belles-sœurs, jalousie entre oncles et tantes, tension autour du divorce de papa-maman, des conflits non résolus qui remontent à la surface comme le gras du pot-au-feu qui a refroidi. Est-il vraiment possible d'éviter ce type de conflit pendant les fêtes? Nous verrons également pourquoi il est préférable d'éviter certaines questions pressantes qui peuvent semer embarras et zizanie. Et vous, comment faites-vous pour éviter que les repas de famille ne se transforment en guéguerre civile? 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Bonjour Ali.
Vos questions pertinentes, évidemment, comme tous les mardis.
J'ai déjà une piste, peut-être c'est de laisser les enfants à table.
Peut-être. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous remplacez notre ami Christophe André ce matin. Je me demande à quoi ressemblaient les repas de Noël avec votre grand-père, le résistant et Premier ministre Jacques Chaban-Delmas.
Écoutez, c'était vraiment sympa.
Alors, quel est le menu de vos choses vues cette semaine?
Eh bien, je vais ratisser très large.
À tout à l'heure, Aurélia. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Te laisse pas faire. T'as aucune raison d'aller te faire chier à ce réveillon de merde chez Sonia si t'en as pas envie. On va aller tous se faire foutre et puis c'est tout. J'achèterai du foie gras, un bon vieux sauterne millésimé. On se fera un petit pique-nique tous les deux, on dira merde à tout le monde.
Bah oui. Pourquoi pas.
Extrait de la bûche, et pour éviter ce genre de situation, nous allons vous donner des conseils pour passer les meilleures fêtes possibles. Bonjour Dominique Picard.
Bonjour Ali.
Professeur émérite de psychologie sociale à l'Université Paris 13, psychologue, autrice avec Edmond Marc d'un excellent Que sais-je consacré aux conflits relationnels. Bonjour Virginie Méglé.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste, autrice d'un ouvrage consacré à la fratrie. Dernier livre paru, hyper émotif, Survivre à la tempête intérieure, aux éditions Erol. Bonjour Nina Bataille.
Bonjour Ali Réveillé.
Vous êtes coach certifié et vous avez récemment publié chez Larousse ces phrases à dire ou à ne pas dire en famille. Alors Noël, c'est dans 18 jours et pour certains, le compte à rebours des conflits a débuté. Dans vos cabinets respectifs, vous sentez que cette période des fêtes reste tout de même anxiogène, en oubliant évidemment le contexte sanitaire très particulier. Vous sentez que dans les semaines qui précèdent les fêtes de fin d'année, un malaise diffus peut s'installer à l'idée de plonger dans le bain des tensions familiales. Nina Bataille.
Ah oui, de toute façon, c'est une période où c'est une période de bilan, donc les gens se posent pas mal de questions à ce moment-là. Et puis oui, le fait de retourner en famille, ça peut être source de joie ou ça peut être source de tension. Donc les gens se posent pas mal de questions à ce moment-là, oui, absolument.
Virginie Méglé.
Ben c'est le malaise et espoir parce que tout le monde voudrait que ça se passe bien. Vraiment, c'est un grand rêve. Mais le bien des uns n'est pas forcément le bien des autres. Alors c'est comment concilier le bien de chacun. Et en effet, c'est une préoccupation réelle qui commence très tôt, même parfois même dès novembre.
Hein. Alors le psychologue clinicien Gérard Pavie dit une chose très intéressante. Je le cite, le déroulement d'une journée de Noël ressemble à une vraie pièce de théâtre et même à un huis clos oppressant. Tout le monde passe une longue journée ensemble avec chacun son rôle bien défini. Le décor est très soigné et dès qu'on sort de la mise en scène prévue, cela peut tourner à la catastrophe. Nina Bataille.
Excusez-moi parce que j'étais concentrée sur ce que vous disiez.
Non, mais est-ce que c'est un huis clos les fêtes de Noël, un huis clos familial, et chacun doit rester dans son rôle pour éviter peut-être la catastrophe.
Hein. Alors chacun retourne dans son rôle initial dans lequel il s'est peut-être extirpé, on va dire les choses comme ça. Quand on rentre, en fait, le groupe familial, quand il se remet ensemble, il régresse, tout le monde régresse, tout le monde redevient le rôle qu'il était initialement dans sa famille. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, au lieu, ça aide pas à se comporter en adulte, on va dire. Et puis, au-delà de ça, on peut occuper aussi différents rôles. On peut se retrouver la fille de ses parents, l'épouse, la mère de ses enfants, avec des injonctions comme ça contradictoires toutes les deux secondes, qui font qu'on ne sait plus très bien où, où donner de la tête. Voilà. Et puis sur le plan de la régression, voilà, on peut tous avoir eu des étiquettes quand on était petit, le bout en train, l'intello, qu'elle soit positive ou négative, hein, le maladroit, le petit dernier, et on s'est parfois affranchi de ces rôles-là, on est devenu des complètement différents, mais tout le monde va vous ramener à ces rôles-là, donc ça peut être déjà source de tension.
Dominique Picard.
Oui. Effectivement, il y a une sorte de régression, de retour à l'enfance, mais il faut pas oublier qu'il s'agit d'une enfance idéalisée et que à Noël, on a une force idéologique qui nous pousse. Noël doit être réussi. Notre famille doit être heureuse à Noël. Même si on accepte éventuellement soi-même de ne pas être bien, pour maman, pour grand-mère, pour la sœur que son mari vient d'abandonner, pour le frère qui vient de rater sa promotion, etc., on est poussé, englué par l'idéologie. Et ça aussi, ça pèse parce que ça nuit à l'authenticité.
Faut-il faire le deuil de la famille idéale à Noël, Dominique Picard ?
Oui, je pense qu'il faut faire le deuil de la famille idéale, mais enfin, pas tout à fait, je m'exprime mal. En fait, il faut accepter que la famille idéale soit justement quelque chose qui n'existe pas. Mais d'un autre côté, je pense qu'on est poussé à néanmoins réussir à Noël. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas à une idéologie ambiante. Il faut, quand on va retourner au travail quelques jours après Noël, les gens vont vous dire « Comment s'est passé Noël ? C'était bien ? T'as reçu des cadeaux qui te plaisaient ?» C'est assez rare, sauf entre amis intimes, qu'on vous dise au bureau « Tiens, salut, ah, t'as réussi à survivre à Noël. » Enfin, sans ironie, hein. « T'as réussi à survivre à Noël, c'était catastrophique, bien sûr, t'as reçu des trucs qui te déplaisaient. » Donc, en fait, c'est très difficile d'échapper à l'idéologie ambiante. Alors, il faut, dans sa tête, bien se dire que on joue un rôle. J'aimais bien la citation que vous avez donnée tout à l'heure. On joue un rôle, c'est un rôle, mais comme on ne peut pas tenir un rôle tout au long d'une soirée sans faiblesse, et puis c'est pas notre métier, et en plus comme dans l'idéologie familiale, on dit aussi qu'on est authentique en famille, que c'est le lieu de l'authenticité. Vous voyez les contradictions dans lesquelles on est placé déjà dès le départ.
Virginie Méglé.
Parce que je pense quand on dit que ça doit être réussi, et c'est ce devoir qui crée une tension, et on oublie peut-être que c'est ce qu'est une fête. La fête, en fait, c'est la famille que férié, c'est le repos. Et peut-être qu'il faut changer plutôt que de dire il faut absolument que ça réussisse, c'est-à-dire comment la réussir. Et vous parliez tout à l'heure de la citation en disant c'est une pièce de théâtre, et je pense que la pièce de théâtre, finalement, n'est pas écrite à l'avance, et que c'est peut-être à soi, chacun de nous, comme un film, c'est-à-dire quel est le film idéal, comment j'aimerais être une fois que la fête est terminée, et donc faire mettre tout en œuvre pour réussir cette fête et aussi y participer, parce que souvent pour la fête de Noël en particulier, ce sont les parents qui organisent et les enfants qui assistent, alors qu'en fait que la vraie fête, je pense qu'elle est aussi dans les préparatifs.
Aurélia Schneider.
Oui, en fait, je pense que les tensions intergénérationnelles existent de toute façon, les enfants, les parents. Et Noël cristallise complètement ces rôles dont Madame Picard parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les enfants sont eux-mêmes devenus des adultes, sont devenus des parents, sont devenus des maris, des femmes, et c'est vraiment compliqué d'harmoniser tout ça pour un instant.
Et puis à Noël, on se réunit donc de façon obligatoire, hein, volontaire, alors qu'au quotidien, les relations ne sont pas forcément au beau fixe, avec la volonté de retrouver la magie des Noëls passés. Elle est difficile parfois cette contradiction, Virginie Méglé.
C'est là où Noël, c'est un rêve. C'est quand même la fête de Noël en particulier, c'est la fête de la naïveté. De la naïveté, ça me paraît d'ailleurs. Hein, c'est la même famille. Et donc à partir de là, c'est ça. C'est un rêve de l'enfant qu'on voudrait poursuivre, mais sans mettre en œuvre le moyen de le réaliser. Et c'est pour ça qu'il y a ce hiatus entre le rêve dans lequel on est et la réalisation de ce rêve.
Virginie Méglet faisait un lapsus, parlait de naïveté. Il faudrait peut-être retrouver une forme de naïveté, Aurélia Schneider.
Oui, alors, bien sûr, ce serait extraordinaire. Mais il y a aussi une autre chose à laquelle je pense en vous écoutant, c'est les valeurs ajoutées. On parle des conjoints comme des pièces rapportées. Moi, j'aime bien dire les valeurs ajoutées. Eh bien, chacun amène son lot de fait à sa façon dans sa famille. Et il faut intriqué, articulé, et ça c'est difficile d'être naïf, tout l'héritage des autres familles, ceux qui font Noël le soir, ceux qui donnent les cadeaux le matin, ceux qui... Et il y a vraiment matière à s'embrouiller.
Dominique Picard.
Tout est très bien dit, hein. Oui, il y a matière à s'embrouiller, mais... Il y a une telle volonté aussi d'être heureux qu'on peut arriver à s'auto-persuader de l'être. Et la plupart des fêtes de Noël sont quand même réussies, même si on garde un petit coin un petit regret, etc. Il faut pas oublier que c'est un rituel, c'est quelque chose de très fort. On célèbre la famille et dans un rituel, on n'a pas le droit de le rater quelque part. Donc, en général, on s'y emploie, effectivement.
Nina Bataille.
On s'y emploie et en même temps, plus on veut tendre vers une espèce d'objectif, plus on va être un petit peu rigide et moins on va se laisser aller. Donc je crois que c'est ce sentiment, cette posture de flexibilité, de prendre ce qui vient. C'est la chanson de Maria Carré, hein, « Tout ce que je veux pour Noël, c'est vous ». Je crois que c'est pas mal. Et puis, la naïveté, c'est bien, mais je pense aussi que c'est bien aussi d'avoir du recul par rapport à ce qui se joue et qui on est devenu, et etc., etc. Parce que la famille, c'est quand même le royaume de l'implicite. C'est pas la peine de s'expliquer, parce que tous nos proches, ils vont tout comprendre, ou alors ils comprennent rien du tout. Donc, on s'explique pas beaucoup explicitement en famille. C'est Christophe André, dans une précédente de vos émissions, qui disait « Le fonctionnement d'une famille, c'est beaucoup de non-dits, d'enfouis, sous le voile de l'amour et de l'habitude. On pense que l'amour devrait tout pouvoir solutionner. » En fait, ce qui paye, c'est la communication et l'intention de faire des efforts pour que ça marche, tout en gardant cette espèce de flexibilité de j'accueille ce qui vient et en fait je suis contente ou content d'être là avec mes proches et sans avoir des attentes démesurées, parce que plus les attentes sont fortes, plus les déceptions vont être fortes.
Marie-Laure Sunshine, de Femmes Actuelles.
Oui, Aurélia parlait des pièces ajoutées. J'avais une question un peu concernant les familles recomposées. Alors là, on a un terreau qui n'est pas le même. Il n'y a pas de passif, il n'y a pas de dossier de conflits familiaux anciens, enfouis. Comment finalement ces personnes qui s'agrègent, qui se connaissent peu, pas ou depuis une période assez récente, ça peut finalement apaiser le repas?
Oui, c'est une question d'ouverture, hein, effectivement. Je pense, quand je disais que pour la fête, rendre le sens à sa fête, c'est qu'effectivement, la fête, c'est aussi dans l'accueil. Parce que malgré tout, il y a quand même, dans les familles recomposées, il y a quand même du conflit sous-jacent, ne serait-ce que parce que papa a volé maman, ou maman a volé papa. Hein. Donc, c'est pas effectivement les mêmes imbrications conflictuelles, mais il y a quand même du conflit potentiel. Le souligner, c'est pas le déclarer. Hein. C'est simplement se dire, c'est possible que ça puisse se passer. Donc, à ce moment-là, faire d'autant plus attention et se dire qu'une famille recomposée, c'est une famille augmentée et qu'effectivement, plutôt que d'être centré sur sa personne et sur ses malheurs enfantins, ce qu'on en a tous aussi, ou ses jalousies ou ces trucs comme ça, être plutôt dans l'accueil et dans l'attention portée aux autres. Et c'est là où je pense que c'est les meilleurs atouts pour faire une fête. Hein,
Alors pendant les fêtes, on assiste à une exacerbation des émotions. Peut-on parler d'une hyper-émotivité, c'est-à-dire le fait de réagir de façon excessive à certains événements? Expliquez-nous peut-être d'abord, Virginie Méglet, la différence entre l'hyper-émotivité et l'hypersensibilité.
L'hypersensibilité, c'est disons que ça peut être c'est une façon effectivement de percevoir par tous les sens de façon très très aiguë, parfois jusqu'à une forme de voyance, hein, parfois de perception très lointaine de choses que d'autres personnes ne perçoivent pas. Donc ce qui nous met en ce moment-là un peu dans la marge et nous rend assez fragiles. L'hyperémotivité, c'est disons qu'on peut naître hypersensible. Je pense qu'on devient hyperémotif et que c'est souvent un terrain d'hypersensibilité hypersensibilité qui peut prédisposer à l'hyperémotivité, mais tout hyperémotif ne sera pas forcément hypersensible, dans le sens où l'hyperémotivité sera aussi souvent le fait de traumatismes passés inaperçus, qui fait qu'on est amené à réagir d'une façon excessive pour les autres, mais aussi pour soi-même, à des événements mineurs, c'est que ce soit la perte d'une clé, un retard de train, un retard comme ça. Et donc, forcément, à Noël, c'est pour tout le monde. Je dirais qu'à ce moment-là, à Noël, presque tout le monde est dans l'hyperémotivité, parce que ça ravive des joies extrêmes, un désir de bonheur extrême, et tout bonheur extrême peut être menacé implicitement par la crainte de la déception, de la peur.
Je cite Clémentine dans l'Express en 2019, elle avait 24 ans à l'époque. Je sais bien que ça n'a aucune importance dans l'absolu d'ouvrir les cadeaux le matin ou le soir, mais quand j'étais petite, on le faisait le 24 à minuit. Et sous prétexte que ma sœur a des enfants, l'année dernière, la tradition a changé. Sans que personne ne me demande mon avis, j'ai l'impression qu'une fois de plus, ma sœur passait en premier et j'ai fait un psychodrame.
Eh oui, ben là, c'est une blessure d'amour propre. Et je pense qu'il faut pas maltraiter les blessures d'amour propre. Pour qu'elles passent, il faut les considérer. Et c'est vrai que là, c'est l'un qui prend le dessus sur l'autre et on n'est fait pas informé. Alors, on pourrait se dire, pour que Noël soit vraiment une fête, éventuellement, comment intervertir ça et que l'an prochain, ce soit l'une qui soit non pas privilégiée, mais qui puisse aussi avoir le droit à faire la fête à sa façon. Hein, mais on voit bien qu'à ce moment-là, elle dit, ça réveille les conflits en très enfantin, je veux dire, c'est Noël, c'est là où c'est comme c'est la nativité, je reviens pas de la même fois le lapsus, comme c'est la fête de la nativité, c'est plus fort que nous, ça nous ramène tous à notre enfance.
Et nous avons tous tendance à régresser pendant cette période.
Il faut l'accepter. Enfin, c'est le meilleur moyen que la régression soit pas trop douloureuse.
Nina Bataille, sur l'exemple de Clémentine, qu'est-ce que vous conseillez? Quel type de réaction?
Ben, comme vient de le dire Virginie Méglet, les parents peuvent, parce que je sais pas où est-ce qu'ils étaient réunis, mais s'ils sont réunis chez les parents, on peut en effet écouter ce qui a été dit, parce que on est parent toute sa vie, on est enfant toute sa vie, hein, quelque part aussi. On le voit, il y a des discussions parfois qu'on entend entre adultes, on a l'impression que c'est des petites filles ou des petits garçons qui sont en train de se parler, parce que les jalousies sont toujours là. Donc soit les parents arrivent à prendre un petit peu de hauteur et à jouer leur rôle de chef d'orchestre en disant l'année prochaine on va de quoi t'auras envie, et puis prendre en compte les envies des uns et des autres un peu à tour de rôle. Soit on peut aussi prendre du recul, parce que elle est adulte, alors oui, je suis d'accord, c'est important d'accepter qu'on régresse, tout à fait d'accord. Et en même temps, on peut aussi prendre du recul et se dire bon là ça va, c'est peut-être pas si grave que ça en fait. Peut-être que les choses évoluent. Et quel est mon objectif? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? De passer du bon temps ou de cristalliser sur cette tradition qui est très importante pour moi? Et peut-être que la réponse, c'est garder la tradition, j'en sais rien. Mais quel est mon objectif? Qu'est-ce qui est important? Souvent, la réponse, c'est de passer du bon temps en famille, en fait. Alors, sur quoi je lâche? Et puis, il y a plein de questions d'ego là-dedans. Et attention, parce que quand il est très gros, il a du mal à rentrer dans la poche.
Dominique Picard.
Oui, je peux dire un mot aussi sur Clémentine. Faut pas oublier qu'elle a un bénéfice secondaire magnifique. Elle peut montrer qu'elle est victime. Donc, faut pas oublier qu'on a aussi ces petits bénéfices secondaires. Et je vois pas pourquoi on s'en priverait. Mais plus on prendra de la distance, plus on aura appris à prendre de la distance avec ça, ben mieux ça se passera.
Virginie Méglet, les tensions non résolues pendant l'enfance perdurent bien souvent à l'âge adulte, les rivalités, les jalousies entre frères et sœurs. Nous devrions prendre du recul avec ces tensions de l'enfance, et pourtant...
Mais parce que le recul, c'est un résultat, hein. C'est pas tu dois prendre un recul, parce qu'en ce moment, ça nous rigidifie. Le recul, c'est ce que permet, entre autres, le travail thérapeutique. Et si on s'apaise, on sera beaucoup moins cristallisé sur les comportements des autres. Mais, et dans l'idéal, effectivement, si on arrive à faire ce travail, à être en paix avec soi-même, en se disant qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas, et sinon être aussi bien que possible, docile avec soi, on sera mieux avec les autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres personnes vont l'être. Alors c'est parfois difficile d'être le seul sage dans une famille. Mmh. Hein, c'est là où, c'est au moment de Noël, même si on a pu prendre du recul, c'est vraiment le moment où tout se, où de nouveau, ben c'est une extrême proximité. Hein, donc être sage, oui, et prendre du recul, mais c'est le résultat, je pense, d'un vrai travail d'amour.
Alors dans les fratries, trouver sa place est un enjeu majeur. Le problème, c'est que les places sont souvent figées, et on le ressent très fortement, bien évidemment, pendant les fêtes. Le Benjamin qui reste éternellement le petit dernier, même à 50 ans, ou la fille aînée qui doit constamment donner l'exemple sur ses places assignées et que l'on voit apparaître de façon très éclatante au moment de Noël.
Bah, sur ces places assignées, ça n'empêche que même que l'aîné a été aussi lui-même petit, qu'il n'est pas toujours grand, il peut aussi avoir c'est son enfance à lui qui va être ravivée au moment de Noël. Mais de la même façon, le Benjamin, c'est le petit dernier par excellence, mais il a peut-être grandi aussi. Donc effectivement, il se retrouve alors que chacun lui s'habille de son côté. Et c'est là où la question du rôle joue. Est-ce que je veux continuer mon rôle ou à jouer mon rôle, peut-être je serais mal dans ce rôle-là. Et donc là, je pense qu'à la fois ce sont des places qui nous sont assignées, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, une prédétermination. Aîné, on peut le rester parce qu'on aura été le premier toute sa vie et que c'est quelque chose de particulier, mais ça n'empêche qu'on n'est, c'est pas pour autant qu'on va vouloir avoir de l'autorité tout le temps sur les autres.
Hein. Nina Bataille.
Oui, alors on n'a pas encore parlé de neurosciences là, il est 10h27,
allons-y.
Il y a un problème. Et si on parlait du biais de confirmation qui fait que je prends pas en compte les faits qui contredisent mon identité, mes valeurs, et que pour aligner tout ce que je vois avec mes opinions préexistantes, parce que sinon ça peut me déstabiliser. Donc ben voilà, on a changé on ouvre les cadeaux le matin. Je l'avais bien dit, ma sœur, c'est la chouchoute, pour répondre à Clémentine de l'Express. Voilà. Alors ça, c'est pourquoi, parce que on se dit j'ai une croyance, ben je vais chercher tout ce qui, dans les faits, va valider cette croyance. On passe pas par la case constat, observation. Alors que si je me dis, alors oui, c'est vrai, je suis Clémentine, on a ouvert les cadeaux. Par contre, c'est vrai qu'hier, ma mère s'est attachée à faire mon repas préféré. Ah, il se passe peut-être un truc un peu différent. Mais ça, le problème, c'est que notre cerveau fonctionne comme ça, c'est un peu à notre insu.
On va faire attention à nos biais cognitifs pendant les fêtes, Nina Bataille. Allez, dans quelques instants, vous verrez qu'il vaut mieux éviter certaines phrases embarrassantes ou passives-agressives pendant les repas de fête. Ce sera juste après Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutaient en rêvant la petite fille au tourne-disque fort. ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée pas dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs d'échange.
Laurent Voulzy, le pouvoir des fleurs.
Tu as vu que personne n'a touché à la bûche ?
Grand bien vous fasse.
Vous vous êtes bourré de pistaches.
Une bûche pareille que j'ai fait faire.
Ali Rébéi.
C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin.
Sur France Inter.
10h32, comment ne pas se disputer pendant les fêtes, c'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Qu'est-ce que tu peux être gamine quand même, hein ? Faut toujours que tout tourne autour de toi. Et moi, maman, et moi. Non, faut grandir, chérie.
Faut grandir, hein ? Pourquoi faire ? Pour devenir une vieille folle en chaleur comme toi ?
On est tous un petit peu énervés. Je propose qu'on passe à la bûche.
Ouais, hein ? Super idée, ça.
Ouais !
Tiens, chérie, ça c'est pour toi.
Merci.
Et ça c'est pour toi. Oh ! Tu viens, mon amour ? On s'en va.
Pour Noël.
Mais elle est malade !
Extrait de la série « Fais pas ci, fais pas ça » sur France 2. Alors, le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier dit qu'il ne connaît pas d'adultes, je ne vois que des enfants améliorés avec leurs blessures et leurs réactions infantiles. Mmh. On l'entend bien là dans cet extrait, oui. Virginie Méglet, je rappelle que vous êtes psychanalyste.
Oui, oui, mais moi je pense que c'est si on accepte ça... C'est ce qui va nous permettre de grandir, parce que c'est pas dire qu'on est définitivement des adultes, mais prendre cette conscience que les émotions ravivées sont des émotions qui sont en lien avec l'enfance, et qu'effectivement, si on joue à l'adulte, on va s'interdire d'une certaine façon de grandir. Et c'est là où, quand je disais, ben oui, ces émotions sont ravivées, mais c'est vrai que lors de ces fêtes de Noël, ne pas oublier en effet qu'on est quand même adulte et je pense qu'aussi le fait d'être dans l'enfance, c'est dans l'attente. Et que c'est peut-être au moment de Noël, ne pas être dans l'attente de ce qui va se passer, dans l'observation, presque dans l'attente que ça se passe peut-être mal ou que l'autre va être favorisé. C'est là où moi j'insiste vraiment sur la nécessité de participer aux préparatifs, à l'action, de donner, et pour ne pas subir comme un enfant.
Docteur Aurélia Schneider.
Oui, alors en parlant des adultes, des enfants, moi je constate quelque chose dans ma consultation, c'est que lorsqu'il y a des parents qui sont malheureusement atteints de maladies d'Alzheimer, etc., et qui redeviennent vraiment des enfants, c'est très très compliqué. Et je crois que même si on est tous un petit peu des enfants, évidemment, et on tient tous notre enfant intérieur par la main, je crois vraiment, c'est important. Eh bien, quand les parents peuvent jouer encore leur rôle de parents, c'est très très précieux.
Clara nous demande s'il faut taire les non-dits pendant la période de Noël. Virginie Méglet.
Moi, je pense que vraiment, là, je reviens au sens à l'étymologie des mots, parce que les mots perdent un peu leur sens actuellement. Et c'est vrai que la fête, c'est la réjouissance, c'est férié, c'est la trêve de Noël. Et qu'en effet, il y a des non-dits. Moi, bien entendu, je suis pour exprimer les non-dits. C'est un travail. Mais d'abord, il y a des espaces pour ça. Quand même qui crée, et donc surtout pas qu'il se soit surtout pas ceux de la fête, et qu'en plus si la fête se passe bien, on aura de meilleures chances, on se donne les meilleures chances pour pouvoir résoudre le non-dit une fois la fête passée. Mais je pense que la fête, c'est vraiment ça, respecter que c'est la fête pour tous et pas l'occasion des conflits, justement.
Dominique Picard, une question pour la psychologue sociale que vous êtes, Sophie, qui nous écrit: j'ai très peur de la dispute à table le soir de Noël. Nous faisons Noël chez nous, mon conjoint n'est pas vacciné et mes parents sont pro-vaccins. Mon père ne sait toujours pas que mon conjoint n'est pas vacciné. Quelle est la solution pour éviter le sujet ?
Oh là là !
Ça tombe sur vous, Dominique Picard.
Mais on est dans ce Noël-là avec une montée en plus de la cinquième vague. On est dans une situation terrible. C'est-à-dire que Il y a une dichotomie entre la fête, telle que vient de l'exprimer Virginie Méglé, Noël doit être une fête, et en même temps, c'est la mort qui s'avance, avec la pandémie en tout cas, qui est possible, et puis des prises de position qui sont très fortes. Enfin, il y a une réconciliation quasi impossible entre les anti-vax et puis les gens prudents qui tiennent à la vaccination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une position, c'est de cliver complètement et de dire, bon, c'est Noël, donc on met de côté tout ce qui concerne la pandémie. On n'en parle pas. Ça, c'est relativement facile. Mais la situation que vous a posée votre auditrice, là, c'est terrible, parce que les parents ne savent pas que le conjoint n'est pas vacciné, donc ils viennent en toute confiance, et le conjoint non vacciné représente un danger, surtout du point de vue de gens qui sont pro-vaccins. Donc, non seulement il y a une situation qui est, dangereuse au niveau intellectuel, puisque on risque de toucher à un sujet de conflit. Les conversations calmes, distanciées entre pro et anti-vaccins, en ce moment, moi, je crois qu'elles ne sont pas possibles. Mais en plus, on peut toucher à un danger réel. Quelqu'un qui n'est pas vacciné peut éventuellement contaminer quelqu'un, même quelqu'un qui est vacciné, surtout si c'est une personne âgée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas de proposition à ça, mais en tout cas, je pense que déjà, on peut jouer avec le principe de réalité. C'est-à-dire que le conjoint n'est pas vacciné, de toute façon, il faudra le dire. C'est trop grave pour taire cette chose. Il peut faire un test. Et il peut dire, voilà, je suis pas vacciné. Peut-être qu'il vaut mieux pas discuter de ça aujourd'hui, c'est difficile. Mais en tout cas, j'ai fait un test. Il montrera au moins qu'il respecte la position et la santé de ses beaux-parents.
Réflexion très intéressante de Nat sur notre page Facebook. Il ne faut peut-être pas attendre Noël pour régler les conflits familiaux. Et si les familles se retrouvaient un peu plus souvent autour de la table durant l'année, Noël ne serait pas le prétexte pour s'imposer. Il suffit de convier la politesse du cœur et faire de cette fête familiale une parenthèse. Belle réflexion de Nat, Virginie Méglé.
Oui, ça fait presque partie des préparatifs de Noël. Pour que Noël soit bien, il ne faut pas que ce soit un moment de rencontre exceptionnel. Ça l'est non plus. C'est pas le faux, c'est en trop. Mais en effet, si on pense que Noël, c'est le moment des réjouissances, si toute l'année il y a eu des conflits, c'est quand même, on peut difficilement imaginer que Noël se passe vraiment bien si on a tué les conflits toute l'année. C'est là.
Tout a commencé le 1er janvier de ma 32e année de célibat. Une fois de plus, je me retrouvais toute seule et en route pour la dinde curie annuelle de ma mère.
La voilà, ma petite Bridgette.
Bonjour, oncle Geoffrey.
T'as un verre?
Non.
Non, viens par là.
C'est pas mon oncle du tout. C'est quelqu'un qui insiste pour que je lui donne du oncle Geoffrey pendant qu'il me met la main aux fesses et qu'il me pose la question redoutée par tous les célibataires attardés.
Alors, comment vont les amours?
Super! Merci, oncle Geoffrey.
Toujours pas de gélat, dis-le.
Ces filles qui n'ont que leur carrière en tête, mais on ne peut pas repousser indéfiniment. Tic-tac, tic-tac.
Bonjour, papa.
Bonjour, ma chérie.
Comment ça se passe?
Un supplice.
Extrait du journal de Bridget Jones. Alors, certaines phrases peuvent agir comme de véritables missiles et gâcher le réveillon. On vient de l'entendre. Pourquoi es-tu célibataire? Tu trouves ça normal à ton âge? C'est une phrase difficile à entendre, Nina Bataille. Je rappelle que vous êtes coach certifié.
Oui, alors c'est pas forcément mal intentionné ni intrusif. Les personnes qui les prononcent sont peut-être impatients qu'il arrive de belles choses à ceux qu'ils aiment. Maintenant, si ça tourne à l'obsession, ça peut être carrément gênant qu'on répète à quelqu'un que le compteur tourne, même si notre société a beaucoup avancé sur un tas de sujets. Une femme qui a pas d'enfant, c'est quand même suspicieux. Donc c'est un petit peu embêtant. Elle peut avoir un milliard de raisons. imaginer que elle n'ait pas envie d'avoir d'enfant ou qu'elle n'arrive pas à en avoir. Enfin, voilà, il y a plein de choses dont on s'épanche pas forcément avec tout le monde. Et c'est très 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 gênant devant tout le monde d'être amené sans arrêt à ça.
Mieux vaut faire preuve d'humour dans ces cas-là, Nina Bataille.
Mieux vaut faire preuve d'humour. Vous voulez une petite phrase ?
Oui, allez-y.
Deux mecs me draguent, je n'arrive pas à me décider. L'un est plein aux astres, l'autre est très connu, mais je ne peux pas en dire plus, qu'elle galère. Tu vois ce que je veux dire pour ceux qui vous demandent pourquoi vous n'êtes pas mariés. Pour ceux qui disent, alors là, je peux dire un truc un peu trash ou pas ?
Oui, ça dépend ce que c'est, mais allez-y.
Naissance. Alors, tu n'as toujours pas de bébé ? Avoir un bébé, c'est un très bon sujet de discussion. Alors, je commence par quoi ? La durée de mes règles ? La dernière fois que j'ai fait l'amour ? Autre chose ?
Bon, ça va, c'est pas trop trop trash. De façon générale, face à ces petites phrases, il est essentiel de ne pas laisser ces émotions empoisonner nos paroles, hein, Virginie Méglet.
Ben oui, essentiel, mais en même temps que ces phrases-là ne peuvent pas ne pas les déclencher aussi. Donc c'est comment on prend le temps. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère disait, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. C'est peut-être ça, dans ces moments-là, quand il y a de l'émotion. Parce que malgré tout, cette phrase, même inconsciemment, je pense qu'elle est faite pour déclencher une réaction chez l'autre. Mais ne peut-être pas rentrer dans le jeu et de dire, allez, je ravale mon émotion, en effet, je tourne et ensuite je trouve le temps d'une réponse apaisée pour pas déclarer la guerre.
Alors, pendant le réveillon, il y a évidemment des sujets qui fâchent. Vous vous souvenez peut-être du fameux dessin de Carandache au moment de l'affaire Dreyfus. Deux dessins dans une première case, un repas de famille où tout le monde est calme. Le grand-père dit « Surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ». Et dans la deuxième case, c'est la foire d'empoigne. Ils en ont parlé. On sent bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de sujets qui peuvent créer de la tension. Sujets politiques, notamment. Comment on gère ce genre de situation, Dominique Picard?
Comme on peut. Non, c'est-à-dire que il y a déjà dès le départ, on se dit je ne vais pas me laisser entraîner, je prépare des réponses avec humour, etc. Mais faut pas oublier que Noël c'est une fête et avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire on mange bien. On boit et tout ça, ça accélère la régression, ça fait baisser les défenses. Donc oui, tourner sa langue dans sa bouche, c'est très bien quand on est à jeun et qu'on y pense tout seul. Mais quand on a un peu bu, que on se maîtrise moins, et surtout. Quand, faut pas oublier que chaque fois on dit avoir sa place dans la famille, tenir des rôles, etc. Mais que tout ça, on le fait jamais seul. On le fait toujours en relation avec un autre. On a un rôle, le rôle qu'on se donne, mais également le rôle que l'autre vous assigne. Et on est bien obligé d'en tenir compte. Donc, quand je dis on fait ce qu'on peut, c'est une boutade, mais elle est quand même assez chargée. Alors, on navigue un peu à vue.
Alors, j'allais vous poser la question suivante. Comment parler à un oncle qui défend l'idée dégueulasse que Pétain a sauvé des juifs français ? Eh bien, Sirius, sur la page Facebook, a une solution. Mettre l'oncle raciste à la cave avec ses meilleurs amis, les bouteilles. Question de Marie-Laure Sunshine, des femmes actuelles.
Oui, alors, j'irai peut-être pas jusqu'à la solution proposée par Sirius, mais je me demandais, en termes tactiques, le plan de table. Alors, voilà un moyen de gérer, de circonscrire les conflits. Tonton Robert, un peu homophobe, balourd, on le met d'un côté, la tata Suzanne un peu portée sur la bouteille, et puis les enfants, j'en parlais en début d'émission, on en met un sur deux, je sais pas, ils vont avoir un peu de naïveté, de
quelle
gaieté.
Famille Marie-Laure Zunshine?
Non, c'est pas la mienne, oh là là.
Aurélien Schneider.
Oui, on peut créer des îlots, oui, c'est sûr, c'est une bonne idée. Enfin, en même temps, c'est vrai que c'est très difficile de préparer, c'est très difficile de tout contrôler à l'avance, parce que les interactions, ce que va dire chacun, les expériences vécues, je crois qu'il faut vraiment naviguer à vue, et il faut se dire surtout qu'on est vraiment heureux d'être ensemble. Je crois que c'est le seul truc à retenir, c'est soyons contents d'être ensemble.
Il est 10h45, il est temps de retrouver les choses vues du docteur Aurélien Schneider.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Aurélia Schneider.
Alors, je vais vous la faire à l'envers, la chronique, chère Ali.
Ah bon?
Oui, car en réalité, avant d'épiloguer sur les recettes pour ne pas s'engueuler à Noël et au 31 décembre, je vais d'abord vous parler de ceux qui ont du mal avec les fins d'année. Car en effet, cela concerne à peu près la moitié de ma consultation. Et c'est aussi ce que constatent de nombreux collègues. Ça en fait du monde, des gens pour qui cette période est difficile. Alors pourquoi? Que leur est-il arrivé? Certains ont un mauvais souvenir des fêtes lorsqu'ils étaient enfants, se sont sentis désavantagés par rapport à la fratrie, ont grandi dans des familles conflictuelles, d'autres sont endeuillés. C'est terrible ces dates qui vous rappellent cruellement le bonheur passé en compagnie des êtres chers ayant disparu. D'autres encore sont malades ou ont un membre de leur famille hospitalisé. Se réjouir dans ce contexte, c'est pratiquement impossible. Pour les anxieux, c'est compliqué de vivre ces moments avec légèreté. Le plus souvent, ils craignent que ce soit le dernier Noël avec ceux qu'ils aiment. Ils anticipent. Et si l'un ou l'autre d'entre nous avait disparu d'ici la prochaine fois? Ils se demandent ce que l'avenir va apporter comme lot de catastrophe. Non vraiment, le changement d'année, ce n'est pas leur truc. Et puis il y a les personnes seules, ayant peu de contacts sociaux, celles qui sont à distance de leur famille, de leurs amis, ou qui sont en désaccord avec eux au point de ne plus se voir du tout. Ok, j'entends d'ici vos commentaires, oui c'est vrai, on veut réussir son dîner, ses cadeaux, que ce soit parfait, que tout le monde soit content. Il y a trop de choses à organiser, à penser, pas assez de temps, des injonctions sociales permanentes et contradictoires, bref, de la charge mentale à gogo. Oui, bûche rime avec embûche. On sait qu'il va falloir éviter les sujets brûlants, politique, religion, argent, et en plus maintenant la vaccination et le pass sanitaire. Oui, on doit faire des trajets monstrueux en moins de 24 heures pour sacrifier au traditionnel partage équitable des repas festifs entre les différentes familles. Mais de grâce, ne faisons pas de Noël une croisade. Prenons conscience que la famille idéale n'existe pas. Et si nous avons l'immense chance d'être ensemble, de bien aimer ces périodes qui peuvent aussi apporter leur lot de douceur, soyons capables de nous réjouir de l'instant de partage qui nous est offert. Prenons la vie avec simplicité, affranchissons-nous du perfectionnisme. Il n'est pas nécessaire de nettoyer toute notre maison de fond en comble et donc de s'embrouiller avec un ou une partenaire à propos de qui doit faire quoi juste avant l'arrivée d'invités qui vont rester dans le salon et visiter tout au plus les toilettes. Ayons le projet commun de nous rassembler heureux. Et tiens, pour finir, je vous donne une consigne comportementale, sinon je n'aurais pas bien fait mon job de thérapeute. Pendant ces fêtes de tous les dangers, dites au moins à 3 personnes proches que vous les aimez. J'attends vos retours.
Les très bons conseils du docteur Aurélia Schneider. Vous pouvez réécouter, partager sa chronique sur le site et sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, vous verrez quelles paroles bannir si vous voulez vous réconcilier après un conflit de Noël. Juste avant, on écoute Billie Eilish, Billie Bossa Nova.
Love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who doesn't.
Interprété Billy Bossa Nova.
Joyeux Noël.
Oh, chéri.
Grand bien vous fasse.
Je te présente Jean-Marc, ton nouvel aspirateur robot. Une merveille de technologie.
Ali Rébéi.
Ah, un aspirateur pour mon cadeau Noël 2020. Quelle bonne idée.
Sur France Inter.
10h51, comment ne pas se disputer pendant les fêtes, c'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Je suis venue avec ma petite liste, Fabienne.
Ah, votre liste?
Oui, pour le réveillon, de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas manger chez les boulets.
Ah.
Bon, alors évidemment, règle numéro 1, que du bio. Hein.
Vous savez, on n'a rien contre le bio chez les Lepic, hein, du moment que ça reste gras.
Ouais. Alors, Tiffaine, comme vous le savez, est allergique au gluten, donc rien à base de gluten. Denis, lui, il est devenu vegan. Vous savez ce que ça veut dire, vegan?
Pas de viande, oui.
Oui, ni rien. Rien qui provient d'un animal. Lait, œufs, fromage, tout ça, ça marche pas.
Ah.
Bon, alors j'ai pensé, il y a une société qui fabrique de la viande de synthèse. Donc pour le réveillon, on pourrait peut-être lui préparer un petit steak synthétique.
C'est lui, c'est le vin sans sulfite.
Oui. Oh, il est délicieux, il donne pas mal à la tête.
Oui. Bon, alors moi je pense que le plus simple, Fabienne, encore, c'est qu'on prépare un menu de réveillon par personne.
Stop! Vous êtes complètement dingue. Vous êtes dingue, les bobos, quoi. Avec vos allergies, vos flexicas, machin, c'est pas possible. Enfin, un menu par personne. Mais c'est quoi l'esprit de Noël, Valérie? C'est quoi Noël pour vous? C'est quoi Noël?
Extrait de Fais pas ci, fais pas ça. Alors, notre réalisatrice Claire Destacan se posait justement la question des tensions autour des préférences alimentaires sans gluten, sans lactose, sans viande, sans sucre, sans porc. Comment éviter les conflits de canards? Enfin, oui, j'ai osé. Virginie Méglet, psychanalyse. Je sais que c'est nul, hein, mais.
Je reviens de la fête, c'est la trêve. Donc, c'est la trêve, c'est aussi cesser d'être en guerre et ça veut dire accepter l'autre. Et en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de régimes, mais ça dit aussi une réalité. Et c'est là où, plutôt que d'attendre que maman fasse le repas idéal pour tous, c'est-à-dire pour moi, c'est que chacun mette la main à la pâte. Et pourquoi pas, en effet, que ce soit une véritable convivialité. Alors, c'est un effort, c'est pas naturel, mais vraiment, on dit, c'est la trêve, on met de côté les guerres. Telle personne, elle est sans gluten, si effectivement c'est bon pour elle, pourquoi m'opposer? Et si je participe à la confection du repas ou de la fête, à ce moment-là, on n'attend plus que ce soit maman qui me gâte plus que l'autre. Hein, c'est le
docteur Aurélie Schneider.
Je pense que c'est...
Ouais, ben effectivement, je pense que c'est très important d'accueillir, d'avoir l'idée que on va être suffisamment heureux pour se mettre de côté les différends qui finalement ne sont pas grand-chose. Pas grand-chose par rapport à la vie, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être ensemble, cette magie. Enfin, beaucoup d'entre nous ont perdu des proches avec le Covid. Enfin, c'est un Noël particulier, ce sont des fêtes particulières. Mais réjouissons-nous d'être en vie, quoi.
Bonjour Guy, vous appelez de la Drôme. Bienvenue. Oui. Quel est votre témoignage?
Bonjour. Ben moi, mon témoignage, je voulais raconter un peu. Ma belle famille est d'origine italienne. Chaque année pour Noël, il y a une trentaine, quarantaine de personnes qui se réunissaient autrefois, maintenant un peu moins. Et on a tous des avis différents, des positions différentes, mais jamais, en 40 ans, jamais, je n'ai vu le moindre conflit, parce que on n'est pas là pour régler nos problèmes, on est là pour partager. Donc on prépare en amont où ça va se passer, qu'est-ce qu'on va manger, qui va préparer quoi. Ce qui fait que quand on se réunit, c'est simplement pour le plaisir d'être ensemble. Et moi, j'ai envie de dire à tout le monde, qu'est-ce que vous venez chercher quand vous vous réunissez pour Noël? Est-ce que vous venez régler des comptes ou est-ce que vous venez simplement vous réunir et puis probablement évoquer des souvenirs, certainement de préférence des bons souvenirs, ce qui fait que la journée se passe dans une simplicité familiale et dans un amour familial. Voilà.
Merci pour votre sagesse, Guy. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on s'est quand même disputé, même après avoir écouté vos précieux conseils, Virginie Méglet, que fait-on pour retisser le lien si on s'est quand même disputé?
Mais dis-donc que la dispute, c'est l'exacerbation de toutes les émotions à ce moment-là. C'est de se dire qu'on a envie de renouer. Dans le meilleur des cas, quand même, on a envie. Mais pas se précipité pour le faire. C'est que malgré tout, dans ces cas-là, il y a un peu la fête, c'est le lendemain, c'est les lendemains de gueule de bois. Hein, que ce soit parce qu'on a trop bu, ou parce qu'on a trop parlé, ou parce qu'on a trop. Donc, c'est se mettre en projet. Si on n'a pas pu se mettre en projet pour que la fête soit une fête, disons se mettre en projet pour qu'il y ait un après-fête réparateur. Et donc, se donner le temps de se retrouver, de retrouver son apaisement intérieur. Et puis, penser que l'autre non plus n'est pas forcément dans le même état que nous. Donc, il n'y a pas de vrai... Enfin, vous voyez, j'ai du mal à dire. C'est plutôt se mettre en projet pour une réconciliation, en tenant compte aussi de l'autre, en sachant que ce n'est pas parce qu'on veut renouer avec une personne que la personne est prête à renouer avec nous.
Dominique Picard.
Oui, moi je voudrais dédramatiser un peu. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait, les disputes et les prises de bec qu'on peut avoir en famille, puisque c'est de ça qu'on parle, ce sont souvent des prises de bec attendues, habituelles. Parce qu'on l'a bien dit tout à l'heure, on reprend des rôles que les gens sont habitués à nous voir prendre et qu'on a l'habitude de prendre. Alors oui, il y a eu une prise de bec un peu difficile pendant les fêtes de Noël, mais on a l'habitude de ça. Donc ça se remettra. Ce type de conflit est rarement quelque chose de nouveau, d'étonnant, et c'est rarement quelque chose de définitif. C'est-à-dire que les jalousies anciennes, les rivalités, les positions qu'on prend les uns vis-à-vis des autres, on les connaît. Et puis après tout, ça fait aussi partie de la vie de la famille. Et bon, ben, ça a eu lieu, c'est une fois de plus, un jour ou l'autre... On passera par-dessus, on n'est pas forcément dans des situations où on est obligé de revenir. Au fond, les conflits, surtout les conflits familiaux, ça fait partie de la vie, on a l'habitude, et puis on les gère ou le temps les gère.
Et puis essayer peut-être de déminer en amont les conflits familiaux pour que les fêtes soient réussies. Merci beaucoup Virginie Méglé d'être venue, merci Nina Bataille, merci beaucoup Dominique Picard. Toutes les références bibliographiques sont à retrouver sur le site et sur l'appli France Inter. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos familles respectives. Demain, comment le jeu permet de développer la créativité et l'intelligence des enfants.